Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc ensemble pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Sacré fils de putain! Oakley Dodds l'avait tourné pour qu'elle ait le soleil dans l'œil. Ça fait, elle fronçait le nez. Lui, tout à son calme, la reluquait avec des mines rigouillardes. Elle demanda maladroitement. « Avez-vous pas changé? Et quel chapeau rigolo !» Elle ajouta. « De loin, on reconnaît même pas dans quel sens vous marchez. » « Ma mère disait toujours que j'étais un homme à deux queues, » dit Oakley Dodds. « Paraît que ça fait que je suis comme un éléphant, on ne sait jamais quand je suis en avant ou derrière. » En même temps, il appuyait son gilet contre le giron de la femme. Basel ne pouvait pas se tromper dans quel sens il allait. « Cheveux gaunes, » elle murmura. « C'est pas raisonnable de rester ici avec vous. » Rasé de bleu des joues d'enfant, il lui sourissa gentiment, fripé comme une fouine. « Vous risquiez pas de me reconnaître, » murmura-t-il. « L'an passé, j'étais broc et bâillonné par suite d'un revers de fortune. » Elle le dévisagea plus attentivement. « Bah, c'est vrai, ça, vous avez l'air mieux. » Oakley Dodds prit l'air modeste. Quand il était propre, il savait faire le beau. « Toute l'année dernière, j'ai fait commerce à la ville, » dit-il. « À Lafayette ? À la Nouvelle-Orléans ! C'est là que se trouve le meilleur de ma vie. » Il prit l'air préoccupé, frotta soigneusement ses doigts de la main gauche sur le revers de sa veste et contempla les lunules de ses ongles bien faits. « Vous avez une boutique ? S'enquit-elle ? De mode et de chapeaux. » Basel baissa la tête. Elle se sentait ridicule dans ses affutiaux alourdis par l'eau et couturés de rapiessage. Sa plaque de rougeur venait de lui remonter à la naissance de l'oreille. Elle se demandait comment elle pourrait bien se sortir de cette chinfoura où elle s'était mise. Et en même temps, elle était piquée sur place. Pas moyen de se déloger. Ce malin d'Oakley Dodds lui décerna un smile d'une manière encore plus savante. Il avait une belle dent en or. Quand il parlait sur les graves, elle entendait moins son accent de canard. Il murmura en la cherchant dans les yeux. La terre est pleine de nouveaux parages. Mais c'est peu de dire que vous êtes une des plus belles femmes que je rencontre. Basel haussa les épaules. Si le colporteur croyait la bercer avec ses accroires, c'est pas sur des mots pareils qu'elle allait tomber faible. Sous l'effet de la colère, elle en profita pour dénouer ses doigts qu'il enfermait toujours dans sa poigne. « C'est des menteries, Oakley Dodds, » cria-t-elle, en lui présentant ses mains sous le nez. « Y a qu'à regarder ma peau, je suis déjà vieille. » Il abaissa ses yeux sur les gerçures. Il n'avait pas perdu son sourire. « Ça, c'est juste les traces du travail, » dit-il à mi-voix. « Puis, sachez-le, le malheur s'efface. » Avant qu'elle lui fait plouf, Il avait agriché par le poignet et l'entraînait en direction de la charrette de commerce. Sa vaguine était bien plus spacieuse que celle des années précédentes. Elle possédait une belle bâche neuve et ses flancs étaient décorés d'un cortège de peintures réalistes représentant des scènes de la vie citadine. D'un bord à l'autre, de jolis messieurs se pavanaient en jaquettes cintrées et des femmes élégantes traversaient des parcs en robes à volant. Il n'était point de canne, de brodure ou d'éventail qui manqua à l'appel du bon goût. Et Basel marqua malgré elle un temps d'arrêt en passant à hauteur d'un couple. Les mains jointes en une attitude admirative, elle s'exclama « Dieu bon ! On ne saura jamais assez comme ils sont beaux, ces deux-là, vous ne trouvez pas ?» Elle ébaucha le geste de caresser la belle image et ajouta en désignant la jeune dame. Plus la peau est blanche et tendre, plus elle est aimable, n'est-ce pas ? Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et s'aperçut que Clidodes la reluquait avec bonheur. « Peu de femmes sont aussi aimables que vous, assura-t-il. C'est la vérité que je connais. » Il passa doucement sa main autour de sa taille et expliqua majestueusement. Les personnes que vous avez devant vous, Basel, tournent le coin des rues Bourbonne et Toulouse, et elles sortent de l'opéra français. Elle le regarda avec stupeur. Il s'était mis à parler avec des mots choisis qui trahissaient l'inducation. Ainsi, Euclidotes, lorsqu'il parlait cadjin, se mettait tout bonnement à sa portée. À peine revenu de son trembalissement, Basel engloba dans un même regard admiratif les lèvres charnues de son interlocuteur et une grappe de fleurs immobiles suspendue derrière son visage. En se redressant, elle se sentait un peu plus haute que d'habitude. Elle lui sourit imperceptiblement. Et l'instant après, elle humait avec ferveur les couches de parfum que soufflait à nouveau le discours de son guide. Le gentleman que vous avez devant vous s'appelle Monsieur Witz, pérora Euclidotes. C'est le maire de la Nouvelle-Orléans. Il descend des Allemands de l'eau, figurez-vous. Et la jolie femme qui se pend à son bras, c'est sa nièce. Elle est entrée dans ma boutique, comme je vous vois. J'adore sa robe rouge, s'enthousiasma Basel. Elle se sentit prendre délicatement par l'aile et son cavalier la fit glisser de côté. « Montez ces trois marches !» suggéra Euclidotes. « À la capeline près, j'ai le même modèle à l'intérieur. » Comment osa-t-elle franchir le pas de cette boutique ambulante ? Comment se retrouva-t-elle en cette garçonnière qui sentait le voyage, le whisky et les odeurs de corps, autant dire les parfums de l'enfer ? Qui aurait pu penser un seul instant qu'elle oserait butiner les couleurs et palper les étoffes de la garde-robe ? Pourquoi se laissa-t-elle aller soudain volubile à raconter les rêves qu'elle avait échafaudé sans jamais oser les exposer à personne. Ses pommettes, sous le coup de l'émotion, s'étaient empourprées de deux macarons d'un rouge vif qui soulignait l'éclat de ses prunelles. Oublieuse du gâchis de sa méchante robe de cotonnade, elle dévalait au milieu des fripes, soulevait avec extase la traîne des robes de marquise, évaluait les décolletages des demi-mondaines, les collets de soubrettes, moquait les vêtures des pères nobles, les redingotes de saute-ruisseau, les brandebourgs d'officiers, essayait les shakos, des châles, des dominos, des emmanchures, des béguins, des cornettes, parlait comme une pie. Ne se rassasiait de rien, sans se douter le moins du monde que toutes ces grègues, aiguillettes et fanfreluches avaient été rachetées à vil prix par son suborneur à un directeur de théâtre impécunieux, cherchant à payer son passage pour l'Angleterre avant que ne le saisissent à la gorge ses créanciers et six comédiens de sa troupe au service de Shakespeare, abandonnés sans subside dans une pension de famille du côté de Mamou. « Vous devez rire après moi. » confiait imprudemment Basel en passant la tête entre les ceintes. Mais j'aurais tant voulu connaître la ville. Vous étiez faite pour elle, mon cher bébé, lui répondait l'enjoué Oclidotz, et les toilettes vous vont à ravir. Il se glissait à ses côtés, frôlait la chair de son bras sous prétexte de lui proposer une nouvelle parure, la présentait devant elle, s'extasiait sur l'arrondi de sa taille. Elle le repoussait comme on écarte un camarade trop familier, rude dans ses manières franches de campagnard, et s'enfonçait à nouveau dans le froufrou des falbalas, prête à succomber devant la chinure d'un batik, la trame d'une indienne ou le frappé d'un velours d'Utrecht. Fourbe et inventif, Oclidotz lui passait tous ses caprices, de la sorte, sans qu'elle s'en rendît compte, il la déshabillait davantage. Tout au bon déroulement de son piège, le vilain drôle approchait de la perfection. De la coque, on passa au rucher. Du cotillon, on s'achemina vers la dentelle. De là, bien sûr, il n'y avait qu'un pas jusqu'à la camisole. Au casaquin, à la brassière, si bien que de bourrage en doublure, de coulisses en œillet, défilé en nervure, rien de surprenant à ce que les doigts du farfadel se posent avec le plus fortuit des naturels sur le globe giboyeux des seins de Basel. Sur le moment, à part la bouche ouverte, elle n'y trouva rien à redire. Elle avait reconnu un picotement, une chaleur. Et aussitôt après, l'envol des oiseaux fit tressaillir ses épaules. Sans mot prononcé, elle posa ses propres mains sur celles du bonhomme qui coiffait sa poitrine abandonnée. Elle ferma les yeux. Elle se tenait serrée contre le grand églingué, deux personnes oubliées au creux de sa garde-robe, engoncées dans les étoffes saturées d'odeurs de linge et de vieillerie. Deux enfants, par le fait. Et la respiration de Basel souleva paisiblement l'arceau de ses côtés. Oclidotz sentait bien comme elle était fragile. Surtout s'il voulait arriver à la mettre dans son lit, il fallait pas qu'il la réveille. Puis il avait compris qu'elle préférait les chuchotements. Il se pencha vers les petits cheveux de son cou et murmura dans une pliure de peau. « Hey, babe, notre amitié est si fort, si doux et pur comme l'or, qu'il faut rien presser. » Il se détacha d'elle, courut à un recoin où il conservait ses affaires de toilette et revint lui passer sous le nez un flacon de parfum. Basel ouvrit les yeux. Elle jeta un coup d'œil du côté du litage où Oclidotz devait faire ses nuits. Comme elle restait silencieuse et grave en fixant les draps sales et froissés, le pédeleur se trouva. « Décriez-vous à votre aise, proposa-t-il. Moi, je vais sortir d'atteler le cheval. » Et je reviendrai pour l'essayage, sitôt que vous m'appellerez. » Il avait retrouvé son sourire de fouine et Basel avait perdu ses couleurs. « Si je passe la robe, Oclidotz, c'est sûr que tu vas vouloir coquer avec moi, dit-elle. Mais j'aime autant te dire, tu bats une cause morte, vieux salaud. » Hors d'elle-même, Basel décrocha la robe rouge de son cintre et la froissa sous le nez du porien. « Tu crois que c'est comme ça l'amour ? » cria-t-elle. « Qu'on peut barguiner un cœur pour du candy et des limons ?» Il hocha la tête et la dévisagea avec un étonnement véritable. « Vous avez 40 ans, c'est quand même pas comme une jeunesse qui va perdre son ruban. » Déjà, il s'avançait pour lui prendre la main et la ceinturer contre lui. Mais il s'aperçut qu'elle avait des grosses larmes dans les yeux. « Laisse-moi, Oclidotz !» sanglota-t-elle. « Je vois bien que t'as rien compris. » Elle le regardait encore plus avec des yeux perdus. Elle trouvait plus les mots pour faire sentir son dégoût. Son bout de nez était trop rouge. Elle bougeait du col dans tous les sens qui disent non et elle mangeait ses larmes, faute de pouvoir parler. « Allez, vieille, » dit Oclidotz. « Assez de bardibarda, viens que je te pique et qu'on n'en parle plus !» Et quand le foutu sagouin a posé sur elle sa main vivante, Basel était si chaude qu'elle savait plus avec quelle porte on ouvre le monde.
« Je reviendrai à Montréal un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendu droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal, écouter le vent de la mer se briser comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid, mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver, me marier avec l'hiver.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Quelques jours plus tard, Edius Raquin et Farouche Ferraille Crowley avaient mis leurs pieds à rafraîchir dans l'eau d'un trou rond. Edius Raquin a dit « Oublie ta briganderie, fils, et reste ici. C'est un pays pour toi. C'est un pays plate, la Louisiane, mais c'est un pays plein de végétation. » Avec 100 bayous pour te cacher, des lacs, des rivières et des bons amis qui nous sommes. » Il se voyait tous les après-midi et restait tranquille à la pêche, tapi dans un arceau de verdure, meilleur moyen de se tenir hors de vue des volontaires de la paroisse, une multitude d'hommes enragés qui prenaient sans doute un ride sur les tracks Astor et galopaient au tréfonds de la campagne pour s'archer Vic Vaughan, sûr qu'on fait pas disparaître un shérif comme on empoche un pourboire. Sa 13e nuit d'insomnie passée, Basel avait vu revenir entre ses jambes le flux de son sang usé. S'abandonnant à la joie d'être délivrée d'une infamie qui la précipitait dans des cauchemars affreux, elle se jeta à deux genoux devant le crucifix de sa chambre et implora le pardon du Seigneur. Elle avait prié sans relâche de ne pas l'abandonner, et lui seul pouvait mesurer ce qu'elle avait enduré de remords et de craintes depuis qu'elle avait prêté son ventre à Oakley Dodds. Une intime sensation d'impureté avait poussé la pécheresse à se baigner plusieurs fois par jour. Ce qu'elle avait fait endurer à son linge, elle l'appliquait désormais à son corps, savonnant vigoureusement sa peau jusqu'à la faire blanchir, et que je te frotte et que je te rince et que je te lave, hantée par la peur de la semence du vilain pédeleur qui risquait de l'avoir mise en famille. La contrition aidant, elle s'était même résolue à faire l'aveu de son écart, et soir après soir guettait le retour de son cher époux. Or, il se trouva que chaque fois qu'au prix de fermes efforts sur elle-même, elle se préparait à affronter les éventuelles conséquences de son inconduite, Aedius rentrait tard. Le bonhomme empestait le vinaigre et la boucane plus qu'un pirate de Jean Lafitte. Il se foutait dans son lit, sans reprendre ses esprits, et le lendemain, peine perdue. Soleil à peine levé, le vieux crocodile s'en repartait vers sa rivière. Il était devenu bourru, disait trois mots si c'était pour demander un carré de pain à tremper dans son bol, et témoignait envers sa femme pas plus d'intérêt qu'envers l'horloge. Tout au plus lui reconnaissait-il un don de parole que la comtoise d'Yvetot n'avait pas. Et après, quelle heure est-il ? Vieux Popraquin battait sa route. Il restait pas. Ainsi, cantonnée dans un état de femme oubliée, persuadée que la beauté est vaine si personne ne la voit, Basel, en soupirant, se dévoua encore plus qu'auparavant aux tâches ménagères. Elle se mit à haler l'ouvrage comme jamais elle n'avait fait. Elle se méprisa, elle s'échina, elle s'éreinta. Abandonnant l'idée de renseigner son mari sur une infortune somme toute sans lendemain, elle promit à Dieu de confesser sa faute au prêcheur, de faire pénitence, de se consacrer au bonheur de sa fille et de trouver pour Azeline un bon mari comme le sien qui la tienne en fidélité jusqu'au seuil de la mort. Puis l'abrutissement du labeur, prenant le pas sur les émois de son âme, Basel s'abîma à cœur perdu sur le présent des jours. Elle marchait sur une route qu'elle n'aurait pas dû quitter. Elle n'osait même pas s'isoler dans sa chambre pour rêver. Elle ne voulait surtout pas essayer de se rappeler ce qui s'était passé. Dès lors, les élans de sa personne ne lui servant plus d'unité de mesure, elle oublia le parfum de Paris, le châle d'Orissa et la belle robe rouge dans un coin de l'armoire à linge. Par la suite, sa mémoire occulta la gravité même de son péché. Et du même coup, s'éteignit la nécessité de le racheter en s'allant contrire devant un prêtre. On ne peut pas dire qu'elle était heureuse, mais juste, elle respirait pour vivre assez. Et le temps roulait. Une fois, Popraquin et Craoulet pagayaient sur la rivière. Ils allaient fide le grand bronque dans son étable. La rame glissait dans la musique de l'eau. C'était une heure calme avec des brumes de chaleur. Il y avait des fleurs silencieuses autour d'eux. Mais la langue du vieux bougue manquait pas d'exercice. Plus fort que lui, il bagoulait. Une jaserie tellement ininterrompue que Farouche Ferraille était mal en train pour y répondre. Il se contentait de seulement tourner la tête avec un sourire fin. Il guettait le mystère des levées de terre, les fantômes des cyprès chauves. Il avait la main pas loin de son revolver. Arrivé en vue de la presqu'île, Aedius a fini par se rendre compte qu'il tenait tout le devant du crachoir. Il a dit « Oh boy, excuse-moi, je dois avoir trop de silence à rattraper, c'est pour ça, je connais plus fermer mon claquoir. » Il a résisté bien 5 minutes, il a halé un gros soupir, il a retiré son chapeau qui lui étouffait la tête et il a dégoisé encore. « Tu comprends, garçon, je suis si content d'avoir un ami pour nous voir et nous charrer. » Il s'est embrouillé dans son discours, la bouche ouverte. Puis sa gargane s'est comme coincée au fond de son avaloir. Il avait l'air malade. Sa vie avait l'air arrêtée. Il montrait la rive, les levées de terre. Avec son crâne sans plume, il paraissait frêle comme un oisillon. Farouche s'est retourné, son pistolet au bout de la main. et l'instant d'après, ils essuyaient une si sacrée frayeur en entendant le tonnerre rouler sous les sabots d'une suite de cavaliers qu'ils se jetèrent au fond de la barque. Quand ils relevèrent la tête, le danger était au-dessus d'eux. C'était une dizaine d'hommes, des bons à rien, armés de fusils, qui galopaient sur le pont, conduisant au camp de Mlle Grandoy. La traiteuse, sortie de son habitation à tout courant, avait retardé cette compagnie de braillards excités aussi longtemps qu'elle avait pu. Comme elle avait beaucoup de nerfs, elle avait même commencé à leur faire réciter un psaume pour qu'ils soient en règle avec le bon Dieu, avant de commencer à tout capoter dans l'habitation sacrée d'une contrôleuse d'esprit. Certains de la milice avaient déjà mis un genou en terre pour pas contrarier les mauvaises ondes de la lanceuse de Tataille, mais un brise-nuque du nom de Saquet la Verdure a levé sa babiche sur elle pour la whipper dans le visage. Ce disputard-là était de la clique de la famille des Gros Genoux. Cela même qu'avait tourmenté non Crozémon jusqu'à vouloir l'emplumer dans le goudron, c'est dire assez sur ce grand Brandon plus grésillant qu'un épi de maïs trempé dans la graisse chaude avait de mauvaises intentions. Tout en crelèrent, contre les gens de couleur, il tournait autour de la négrette, cramponné à la soutadère de son cheval, le vilain bervocheur élevait la poussière sur un rayon d'au moins 10 pieds et parlait haut, un vrai braillard. Il déblatérait comme ça. « Faut les noirs restent en arrière des affaires des blancs. Et que ce monde-là, la nigraille, y a que le whip qu'ils connaissent. » Alors Mlle Grandoy a posé ses poings sur ses hanches et l'a laissé les sacrés maudits ravets fouiller toute la place, même sonder chaque talle des ronces. Un lapin, une armadille, aurait même pas su où cacher leurs petits. Puis quand ces fous furieux sont arrivés devant l'étable où Mlle Grandoy savait ils allaient trouver le grand bronque, elle s'a mordu les joues et s'est mise à couler sur place. Après, quand même, les enragés étaient ressortis bredouilles après avoir fourgaillé dans la grange et gavagné en vain tout son camp. La traiteuse n'en croyait pas son dieu possible. Elle est restée sur place, branchée comme un faucon nocturne, ses yeux grands ouverts. Elle a regardé les cavaliers s'éloigner à bride abattue. Les jambes de la noiraude tremblaient tellement sous elle qu'elle ne savait pas si elle allait pas tomber en faillitude. Et même quand la poussière du chemin était retombée sur la racaille, elle avait toujours pas compris le miracle, ni comment Ferraille Crowley s'était pris pour pousser son étalon dans le fil de la rivière et le faire nager jusqu'au couvert des roseaux sans qu'il bronche. Bon, mais ce qui comptait, merci Seigneur, c'est qu'ils étaient sauvés. Et la bonne vie avait repris son cours. Un autre jour, Edius Raquin et Farouche Ferraille Crowley s'étaient rejoints pour une partie de pêche. Ils avaient encore mis leurs pieds à rafraîchir dans l'eau d'un trou d'eau. Pour leur bonheur, les deux amis avaient juste besoin d'un coin d'ombre histoire de ne pas se brûler au soleil comme des nègres, puis d'un filet de moonshine pour ne pas risquer la morosité. Et si l'occasion d'un codfish se présentait, eh bien il le cuisait sur un feu de tourbe et de graminées, dont la boucane éloignait les moustiques. Grâce au vieux hip, une bétaille qui les avait approchés au point de les faire inséparables, ils tiraient le meilleur parti de la vie. Des heures entières, ils contemplaient le silence. Et l'horloger du ciel veillait sur eux. Un autre jeudi encore, un mardi, si ça se trouve, Edius Raquin a cligné de l'œil et remonté son bouchon parce que le poisson vase mordait pas. Il a dit « Avec toutes ces milices, ces enragés qui te cherchent, encore une chance que tu te sois trouvé en Louisiane, fils. Ici, c'est plein des trous d'eau. Tu peux toujours plonger sous la rivière et respirer avec un roseau. Comme ça, les marais chercheurs te trouvent pas. » Farouche Ferraille a haussé les épaules. Souvent, pour le décourager de parler, il faisait semblant de ne pas prêter attention aux mots du cultivateur. Et Dius, ce coursi, s'a pas découragé. Il a relancé son bouchon et il a poursuivi sa jaserie. Et il a dit « L'état du Texas est dangereux, fils. Puis c'est un pays trop gros. Il y a trop de sable là-bas. Tu es gros là-bas. Les polices, les revolvers, ceux qui les tiennent et même les moustiques. » Farouche Ferraille Crowley a chassé la fumée dans ses yeux, ça le gênait pour guetter. Toujours il continuait à guetter. Il a soulevé un peu son chapeau du Midwest et il a répondu « Ça, au Texas, les maringouins sont énormes et la mort rase gratis. » Popraquin a taquiné son bouchon. Il a laissé passer l'eau sous leurs pieds et il a dit « Au Texas, ils ont les cow-boys, à cette heure, des gars marioles qui ont l'habitude de porter des 10-gallon hats. » L'autre n'a pas bougé. Il ne voyait pas venir le papy. Dans quel coin d'humour il voulait le tirer. Voilà, nous avons terminé donc pour ce soir la lecture de ce roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons demain soir. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.